des exemplaires circulent et quelques associations à ce propos. Donc, s'agissant d'un travail de recherche portant sur les voyages, il est peut-être approprié de commencer par une anecdote, parce qu'il n'y a pas de livre de voyage sans anecdote. Il y a d'ici bien 17 ans, un étudiant en panique avait contacté professeur Jean Viviès. Le jeune homme en désespoir s'inquiétait que le récent ouvrage de M. Viviès, Le récit de voyage en Angleterre, pourrait porter nom, comme c'est le cas, sur le genre du récit de voyage, comme il a pratiqué en Angleterre, mais éventuellement sur les récits de voyage faits en Angleterre. Comme ce jeune homme était sur le point de s'embarquer pour un DEA sur le voyage d'Angleterre, ceci aurait rendu son propre travail superflu. M. Viviès a répondu avec une gentillesse désarmante, tout en facilitant l'achat de l'ouvrage, chose considérablement plus difficile alors qu'aujourd'hui. Cette ouverture sur le jeune chercheur un peu désorienté dont l'identité n'est pas si difficile à deviner met en lumière quelques éléments qui permettront de démarrer ma discussion. D'un côté, ce travail est le fruit d'un travail d'une haleine bien plus longue qu'il ne serait souhaitable normalement, presque 20 ans séparant les premières ébauches de la publication de l'ouvrage. L'autre plus important, une très curieuse absence de travaux. Non seulement à l'époque, mais depuis non plus, on ne trouve que rarement des études portant sur le voyage d'Angleterre fait depuis les pays francophones et en fait depuis d'autres pays non plus. Ceci est plutôt remarquable s'agissant d'un pays qui avait une industrie d'hôtellerie développée dès le 15e siècle et qui, à partir du 17e, 18e siècle pour le moins, figure parmi les pays les plus visités. Au fil des ans, l'interrogation sur le pourquoi de cette bizarrerie, en contraste si net avec les très nombreuses études sur le voyage d'Italie et sur cette entité toujours difficile à définir qu'est le Grand Tour, est devenue une question centrale dans ma recherche même. Je soupçonnais que ce hiatus prolonge un certain nombre d'idées qui se mettent en place déjà au cours du XVIIIe siècle. Et en tête de la liste de ces potentielles explications, le phénomène que j'aime appeler, avec une expression empruntée à cet inventeur du journalisme littéraire et ennemi favori des philosophes qu'est l'abbé Desfontaines, la Voltaire humanée, c'est-à-dire d'attribuer, coûte que coûte, l'origine de différents phénomènes à Voltaire. Quand, dans la série d'anthologies de récits de voyage français, publiée par Robert Laffont, on a publié le volume sur l'Angleterre, celui-ci a porté le sous-titre « De Voltaire à Mecorlan ». Or, en ouvrant le livre, on se rend compte que d'un point de vue chronologique, le premier auteur cité n'est pas Voltaire, mais Béat de Murat, un auteur qui, de surcroît, n'est même pas français, mais suisse. On l'a appelé à l'époque l'ingénieux officier suisse. Son identité suisse pouvait paraître un détail minime dans les mains de l'éditeur de l'ouvrage en 1998, mais il ne l'était certainement pas pour l'auteur, ni pour ses lecteurs, ni d'ailleurs pour l'historiographie helvétique. Murat était issu d'une famille francophone de Berne. Après quelques années dans l'armée en France, il a voyagé en Angleterre pour des raisons en fait inconnues. Dès l'ouverture de son ouvrage portant le titre « Lettres sur les Anglais et les Français », publié un quart de siècle après les voyages, il a déclaré que son intention est de regarder l'Angleterre et la France avec les yeux d'un Suisse. Pour lui, ceci voulait dire une position de tiers, d'impartialité. Pour de nombreux critiques contemporains, c'était une occasion d'ironiser sur cet auteur qui parle, je cite, « du haut de ses idées et de ses montagnes », encore une fois les mots de l'abbé Desfontaines, il en avait de bien bons, voire de remettre en question le droit d'un auteur suisse de formuler les critiques sur la France. Le débat autour de Murat, qui a duré trois bonnes années, a été étudié dans un livre de Janos Ries et fait partie de ces phénomènes de réplique de voyage ou travel controversies qu'étudie en ce moment la spécialiste des voyages d'Europe de l'Est, Wendy Bracewell. Dans le cas du débat autour de Murat en particulier, la situation triangulaire suisse-français-anglais rend le débat encore plus complexe. Et il est différent des cas étudiés par Wendy Bracewell également par le fait que la culture dont arrive le voyageur, la Suisse, est dans une situation considérée culturellement inférieure aux destinations. Les cas de Wendy Bracewell sont des voyageurs français, anglais, italiens dans des destinations comme la Croatie et les réponses locales à ces récits, c'est-à-dire ce sont des récits de voyage qui regardent vers le bas, tandis que ici, c'est un récit de voyage qui, selon certains, sera de regarder vers le haut. Mais dans ce débat autour de Murat, on aperçoit également un élément essentiel de ces controverses de voyage, également de tout le phénomène du voyage d'Angleterre à l'époque où je l'ai étudié. Le voyage et le récit qui en résulte souvent servent uniquement de prétexte à des débats qui dépassent largement la question de la mobilité même. Nous retrouvons ainsi Murat et ses critiques français dans probablement le premier texte qui affirme une identité culturelle romande, distincte quelques années plus tard. Mais son récit de voyage est devenu important pour le public anglais aussi. Et ainsi, il fait une apparition également dans The Castle of Otranto de Horace Walpole, dont la préface, bien connue, est signée par un certain Muralto. La signification d'une position affichée de neutre, que celle-ci soit véridique ou non, est également historiquement changeante. Vers 1725, le public français lit le texte neutre de Murat comme un texte qui favoriserait l'Angleterre. Donc la neutralité se lit comme pro-anglais. Un demi-siècle plus tard, un certain François Lacombe rédige un livre sous une identité suisse. Cette identité est entièrement fausse, il s'agit bien d'un auteur français et peut-être même pas entièrement sérieuse. Mais en s'affichant comme un auteur suisse, ceci permet également d'annoncer une position de neutralité dans le contexte franco-anglais. Mais un demi-siècle après Murat, après la victoire anglaise dans la guerre de 7 ans par exemple, cette neutralité se comprend différemment. Ainsi, le censeur royal de l'ouvrage de Lacombe déclare que ce livre, qui pourtant n'épargne pas de critiques envers certains aspects de la France non plus, donc pour le censeur, cet ouvrage est une, je cite, « éternelle antidote contre la morale contagieuse et dépravée de nos prétendus philosophes ». Fin de citation. Comme il s'agirait d'une illustration des idées d'Umberto Eco sur l'œuvre ouverte, un texte de voyage peut continuer à vivre après la publication, parfois même après la mort de l'auteur, et peut être mis au service d'idéologies diverses qui peuvent même contredire les intentions initiales. Il faut que j'admette que le fait de m'intéresser initialement aux voyageurs suisses en Angleterre venait d'un hasard. J'ai débuté cette recherche lors d'un séminaire d'initiation à la recherche portant sur les voyages. Comme j'étudiais en littérature française à cette époque les lettres philosophiques de Voltaire, j'ai décidé que ce serait une bonne idée de regarder les voyageurs français en Angleterre de la même époque. Et par un élan de comparatisme, juste à l'improviste, j'y ai rajouté quelques voyageurs suisses romands. Mais parfois, le hasard fait bien les choses, et cette attention parallèle aux voyageurs français et suisses est devenue un fil conducteur de la recherche. Le genre de fil sur lequel on tire, jusqu'à ce que tout le pull se décompose. Dans mon cas, le pull à décomposer était la voltairomanie, cette opinion si populaire, mais sans doute bien trop facile, selon laquelle le voyage d'Angleterre serait expliqué et ne demanderait pas d'attention supplémentaire. Qu'il s'agirait d'un phénomène de voyage philosophique initié par Voltaire et les successeurs sont des pèlerins suivant les traces d'un saint moderne. Le fil suisse m'a permis de réorienter cette question. Murat n'est même pas le seul voyageur suisse et même pas le seul voyageur suisse avant Voltaire. Alors comment expliquer tout d'abord la présence de ces voyageurs suisses? En lisant la littérature secondaire suisse, j'ai découvert l'existence d'un plus vaste phénomène de mobilité, souvent combinant expérience de travail à l'étranger et des voyages. Les élites protestantes suisses s'orientent volontiers vers l'Angleterre au cours des 17e, 18e et en fait 19e siècles. Ceci a initié une autre préoccupation méthodologique devenue importante, ne pas accepter le fait d'une mobilité et même l'existence d'un récit de voyage comme preuve d'une mobilité de plaisance qui, avec nos catégories bien trop modernes, se qualifierait de voyage. Exil, errance, voyage professionnel et de plaisance se mélangent pratiquement à tout moment. Et, inversement, le fait d'un voyage ne mène pas nécessairement à l'écriture. Composer des récits de voyage reste, dans presque tous les cas, un geste exceptionnel, quelque chose qui doit se justifier d'un point de vue quelconque. Se justifier intellectuellement pour l'auteur et se justifier financièrement sur le marché de livres qui est alors certainement surchargé de livres de voyage. Très nombreux sont ceux qui voyagent, mais décident de ne pas en écrire. Dans le livre, je les ai appelés des voyageurs invisibles, mais cette expression est en fait incorrecte, je me rends compte. Ces voyageurs qui ne s'expriment pas, nous les retrouvons dans diverses sources sérielles, listes de visiteurs, registres de demandes de passeport, un type de document qui est très rare dans ce cas particulier, et surtout dans des mentions par d'autres voyageurs. Certains voyageurs parlent de leur décision de ne pas écrire de voyage d'Angleterre, tel l'académicien Abbé Morellet et le futur girondin révolutionnaire Bissot de Varville. Tous les deux font allusion au fait que le récit de voyage est un genre qui n'est pas suffisamment sérieux. Les doutes épistémologiques et même moraux concernant le récit de voyage au XVIIe, XVIIIe siècle sont bien connus. Le statut semi-scientifique, semi-fictif entre inventaire et invention, avec les mots de Jean Viviens, n'étant pas toujours apprécié. Pour illustrer ce statut incertain, je cite volontiers le parcours d'une citation de Strabon. Dans la géographie, le géographe grec annonce à un moment que, dans la traduction récente française, tous les voyageurs aiment se vanter en racontant leur périple. Mais cette citation apparaît sous une autre forme dans les articles voyages d'une série de dictionnaires français du XVIIIe siècle. À ma connaissance, elle apparaît pour la première fois dans la deuxième édition du dictionnaire de Furtière, qui a été établi par l'intellectuel huguenot en exil Panache de Beauval, et se retrouve régulièrement jusqu'à l'encyclopédie. Dans ces textes, la citation, donc, qui a été « Tout voyageur aime se vanter en racontant leur périple » devient « Tout voyageur est menteur ». Une opinion qui conjugue le proverbe « à mon beau mentir qui vient de loin ». Et cette citation justifie la méfiance envers cette forme d'écriture chez certains auteurs. D'autres auteurs décident de parler de leur déplacement, mais en évitant le genre du récit de voyage, c'est le cas de Voltaire. Les lettres philosophiques ne peuvent pas être qualifiées de récits de voyage, une opinion que je défendrai mordicus contre. Il y a d'autres qui le considèrent comme un exemple de récit de voyage. Même si l'ouvrage s'appuie sur une expérience de mobilité de nature composite, Voltaire se présente exilé quand il le veut, voyageur quand ça lui plaît et anglais quand ça l'arrange. Le fait qu'il ne s'agisse pas d'un récit de voyage ne veut pas dire, par contre, qu'il ne pourrait pas être la motivation derrière une incontestablement importante mode de voyage. En fait, c'est dans le récit de cette expérience d'un autre pays que Voltaire mène jusqu'au bout la création de sa persona de philosophie. C'est par excellence un moment de self-fashioning. Voltaire n'invente pas le voyage d'Angleterre, mais il fait un excellent travail de se présenter comme s'il en était l'inventeur, tout comme il le fait dans pas mal d'autres domaines. Revenons encore à un des auteurs qui s'est déclaré contre les récits de voyage, Bissot de Varville. Il avait déclaré que rédiger un récit de voyage d'Angleterre serait une idée un peu usée. Quelques années plus tard, il a voyagé aux États-Unis et il a même rédigé un récit de voyage cette fois-ci. Le texte publié en 1790 commence par ses excuses. Il est conscient du fait que le temps n'est pas au voyage. Le focus de la France en 1790 est certainement sur la France même. Mais Brissot souligne combien il est important de prendre en compte les leçons que la Nouvelle-France en création pourrait tirer de l'expérience américaine. Autant qu'il ne voyait pas l'intérêt d'écrire de l'Angleterre, le récit de voyage d'Angleterre étant déjà banal dans les années 1780, autant la constellation politique justifie de se hasarder sur les terrains glissants de l'écriture de voyage quand il s'agit de l'Amérique. La description qu'il donne de l'Amérique évoque, avec une référence à Télémaque, une nouvelle salante outre-Atlantique et par ce fait rajoute l'Américain à la liste des étrangers symboles avec ce mot si bien trouvé de Paul Hazard, ces formes de l'autre qui correspondent autant, voire davantage, à des préoccupations dans le pays de départ du voyageur qu'à une réalité tangible sur place. Incontestablement, l'anglais a rempli le rôle d'étranger symbole pendant un bon moment. Et le voyage d'Angleterre a bien été le voyage philosophique pour certains. Je ne nie même pas le fait que c'est suite au voyage de Voltaire, voyage, exil, déplacement de Voltaire, que cette situation se met en place. Mais ceci ne se fait pas ex nihilo et n'aide en aucun moment la forme exclusive du voyage d'Angleterre. Donc il est essentiel de regarder les choses sur une plus longue durée. Voltaire se présente en personnage isolé, ne mentionne dans les lettres philosophiques aucun autre Français à Londres, même si nous savons aujourd'hui qu'il a été entouré par une compagnie francophone mixte composée de huguenots, d'exilés, suisses. Voltaire ne fait pas non plus référence à aucun texte français en français rédigé concernant l'Angleterre avant lui, ne mentionne pas non plus Beate Murat, dont il a certainement, il n'a peut-être pas lu avant son voyage lettre, mais il était conscient de l'existence de ce texte. En s'isolant de ses précurseurs et en supprimant même leurs traces, Voltaire se présente comme l'unique prétendant au rôle du, je cite, le Français qui arrive à Londres, l'image qui ouvre la très importante lettre 14 des lettres philosophiques, qui porte sur la physique de Newton, cette révolution scientifique de son temps. Les lettres philosophiques étant censurées, on ne peut pas vraiment se pencher sur leur réception dans les périodiques de l'époque. Par contre, dans le débat autour de Murat, nous trouvons des moments intéressants. Par exemple, ce moment où le journal des savants annonce que le texte de Murat confirme l'image qu'ont les lecteurs de l'Angleterre. Ceci contredit encore une fois cette présentation de Voltaire qui viendrait juste initier une nouvelle forme de voyage dans une nouvelle destination. D'où viendrait cette image que Murat confirme? Les voyages d'Angleterre par les Français sont à peu près impossibles pendant trois bonnes décennies, après la double césure de 1685-88, c'est-à-dire la révocation de l'édit de Nantes, menant à l'arrivée d'un groupe de huguenots, on ne sait pas exactement, disons à peu près 100 000 personnes en Angleterre, et la Révolution glorieuse. Après la fin de la guerre de succession d'Espagne, à l'époque de la Régence, il y a une certaine mobilité française vers l'Angleterre, il en existe même un récit, mais beaucoup trop superficiel et beaucoup trop peu connu pour être à l'origine de cette image dont parle le journal des savants. Dans mon effort d'aller à l'encontre des explications reçues concernant le phénomène et avec l'aide de la grande bibliographie de voyage de Geoffrey Edward Cox, c'est très pratique que volume 3 de cette bibliographie liste la quasi donne une liste quasi exhaustive des voyages en Angleterre, j'ai commencé à remonter dans le temps. Le premier pas a bien été effectué avant moi. Un article trop peu connu de Gabriel Pasquier, publié en 1920-21, a identifié des présences huguenotes en Angleterre avant Voltaire. La mobilité huguenote vers l'Angleterre peut prendre des formes diverses. Fuite, résidence, mais aussi parfois du voyage. Par exemple, par des huguenots qui s'étaient installés ailleurs, aux Pays-Bas, en Allemagne, et qui se rendaient en Angleterre pour regarder la situation de leurs coreligionnaires. Il arrivait même qu'une personne arrivant en voyage en Angleterre a décidé de s'y installer, c'était le cas de l'historien et lexicographe Abel Boyer. Par l'étude de ces textes, et également d'autres textes issus de l'exil huguenot, tels les sermons, j'ai pu identifier que l'image de l'Angleterre que construit Voltaire pouvait avoir pour une de ses origines la propagande huguenote. Motivée par la rancœur et leur souffrance personnelle, cette propagande développe l'image d'une Angleterre libre face à la France qui est, je cite, dans les fers, et quelques autres images devenues clichés au XVIIIe siècle s'y trouvent également. Auprès des autres auteurs huguenots même, nous trouvons parfois une curieuse identité double. Donc, quand Misson de Valbourg, un voyageur huguenot résident aux Pays-Bas mais voyageant en Angleterre, dit « Notre roi, c'est Guillaume d'Orange », et quand il dit « Notre pays, c'est la France ». Donc, une espèce d'identité fracturée, s'il remarque. Cette origine huguenote de l'image de l'Angleterre apparaît occasionnellement dans les discussions sur le voyage d'Angleterre parce qu'il s'agit d'une filiation qui correspond toujours au récit fondateur des Lumières. On sait que Pierre Bell a été nommé comme précurseur majeur des Lumières dans l'encyclopédie. Sébastien Marcier avait annoncé que les huguenots auraient créé une vulgate de l'opinion éclairée. Cependant, la mobilité protestante vers l'Angleterre ne commence pas avec la révocation de l'édit de Nantes. Des groupes huguenots s'y installent depuis le dernier tiers du XVIe siècle et occasionnellement y voyagent aussi. Mais de façon importante, ils ne sont pas les seuls. Dans la préparation de ce travail, un des derniers grands ajustements que je devais faire fut le fait d'ouvrir vers l'avant 1685. Cette ouverture était nécessaire pour comprendre dans son intégralité les fluctuations du statut de voyage d'Angleterre dans la pensée de l'époque. En nous limitant à l'époque de Voltaire et ses successeurs et rajoutant simplement les huguenots comme précurseurs dignes, il serait trop tentant de lire tout le phénomène dans une vision hagiographique menant à l'apothéose de la philosophie. Or, la ligne n'est certainement pas aussi droite. Sur la période élisabéthaine que j'ai étudiée brièvement, il existe un article excellent de M. Gilles Deloison donnant un panorama riche. Mais jusqu'à la guerre civile anglaise, les visites sont relativement rares. L'Angleterre reste à la périphérie de l'imagination voyageuse de la France. Et elle se retrouve bien sûr encore plus écartée à l'époque de la guerre civile, quand le pays remplit la fonction de théâtre sanglant de l'Europe. À partir du moment du protectorat, on voit quelques voyageurs, et même un guide en est publié par un certain Louis Coulomb. Ceci dit, le pays que Coulomb décrit comme ancien séjour des anges, mais maintenant enfer des parricides, ne semble pas très attirant, et le texte du guide me semble être plutôt une compilation mêlée avec des éléments miraculeux, des mirabilia, comme l'histoire de ce vieux de Shetland qui se marie à l'âge de 110 ans et va encore à la pêche âgé 135. Il me paraît que le guide de Coulomb invite plutôt à une expérience de voyage par la lecture qu'en personne. Le grand moment de changement est la restauration Stuart. Comme le prétendant Stuart a passé la meilleure partie de son temps en France, il a un entourage français. La curiosité envers ce pays, plus ou moins inaccessible aux Français pendant presque deux décennies, exerce une attraction majeure. Les premiers voyageurs s'y rendent se trouvent déjà sur les bateaux qui accompagnent Charles II en Angleterre. Pendant les deux décennies suivantes, les Français sont omniprésents à Londres. Comme un poème anglais de l'époque l'affirme, « A colony of French possessed the court, buffoons, pimps, priests in the private chambers port. » Le premier groupe de Français à Londres est donc celui des courtisans. La création, à la même époque, de la Royal Society attire des voyageurs savants, qui sont un peu mieux connus, Balthazar de Montconnus et Samuel Sorbière surtout. Ce dernier finit par voir son récit de voyage d'Angleterre censuré pour atteinte aux intérêts de la couronne française. Le censeur a déclaré qu'il a disséminé des mensonges sur les principaux alliés de la couronne. Les travaux antérieurs ont soupçonné une anecdote remettant en question le prince dans la discussion du Danemark. Comme étant à l'origine de ce jugement, il me paraît que peut-être l'opinion répétée de Sorbière concernant l'Angleterre, l'instabilité politique de l'Angleterre et la nostalgie que l'on remarquerait en Angleterre seraient des explications plus probables. Ce sont des sujets scandaleux s'agissant du partenaire majeur de la France dans une alliance internationale en train de se former. Mais à côté de ces voyageurs appartenant à des élites intellectuelles ou sociaux, il existe tout un groupe de visiteurs de nature très différente, ceux que j'aime bien appeler les prototouristes. J'avais avancé l'idée que des visites par des Français en Angleterre entre 1660 et 85 pourraient correspondre à une forme de voyage, à propos duquel le mot « touriste » vient en effet à l'esprit. Des visites brèves, parfois seulement 5 jours ou quelques semaines, une tellement brève visite serait inimaginable au XVIIIe siècle, souvent collective, avec la conscience de faire comme les autres, de suivre des schémas établis en effectuant ce voyage avec des curiosités superficielles, même selon l'aveu des voyageurs eux-mêmes. Ils sont certainement bien différents dans leur pratique que ce qui est recommandé par les arts de voyage. Le nombre important des voyageurs permet également de remettre en question la notion de Paul Hasard concernant le refus de voyage à l'époque classique. Il me semble que ce refus existait peut-être moins au niveau de la pratique et plus au niveau des discours, et même là, sans être exclusif. Dans ce groupe de voyageurs d'Angleterre, proto-touristes, dont il ne survit qu'une poignée de textes, j'ai également remarqué une thématique récurrente. Le poète galant Le Pays commence par créer un jeu de mots splendide lors de la traversée de la Manche entre mal de cœur et mal au cœur, la traversée étant une bataille amoureuse avec Madame Tétis, dans laquelle l'amoureux est au désavantage parce qu'il doit, en fin de compte, montrer ce qu'il a sur le cœur, qui est certainement la plus jolie métaphore sur le fait de vomir jamais rédigé. Et ceci est une des origines de ma recherche actuelle sur le mal de mer. Ensuite, il trouve un seul monument de l'Angleterre remarquable, c'est la poitrine des femmes. Il compte en importer en France. Un autre jeune voyageur, dont le récit manuscrit est à la BNF, vient en Angleterre directement pour voir les femmes que l'on dit très belles et très relâchées quant à leurs habits. Le poète Étienne Pavillon, qui accompagne une jeune Française qui va se marier en Angleterre, parle d'une compétition de poitrine entre sa protégée et les Anglaises. Un autre voyageur, probablement un jeune noble normand, rêve de prendre pour maîtresse les belles serveuses des auberges anglaises. Dans cette littérature de proto-touristes, l'Angleterre est souvent approchée à travers la physique féminine. Il est certes tentant de lire ces nombreuses références ensemble. L'Angleterre est un partenaire plus faible dans l'alliance franco-anglaise en formation, au moins perçue en tant que telle par les Français. Le pays y serait féminisé par la plus puissante masculine, France. Cette image de l'Angleterre est certainement un monde à part de celle d'une destination philosophique. Mais il est important de connaître ces représentations pour comprendre certaines des images de l'Angleterre au XVIIIe siècle. J'ai fait une vaillante tentative, sans doute vouée à l'échec par définition, de lire tous les récits de voyage dans ce corpus, plus de 70 textes. Bien entendu, dès le moment de la publication de l'ouvrage, on en a trouvé plusieurs nouveaux, donc c'est par définition voué à l'échec, mais il faut bien essayer. Et ce corpus plus grand a permis d'apercevoir des continuités. Au même moment où Voltaire est en Angleterre, il voyage un jeune noble appelé Fougeroux, le neveu du amer de Monceau, en fait. Il y arrive plus ou moins directement pour réfuter l'image de l'Angleterre telle qu'elle a été formulée par l'officier suisse Béat de Murat. De ce texte, il refuse la forme, le contenu et l'auteur. La forme, il trouve que le récit de voyage ne devrait pas servir à philosopher, mais plutôt à fournir une image objective. Le contenu, il ne veut pas accepter les critiques formulées contre la France. L'auteur, non seulement il n'apprécie pas l'auteur suisse, mais il conclut que probablement il s'agit en effet d'un Anglais qui se cache derrière le texte anonyme soi-disant suisse. Ce que le jeune noble Fougeroux propose à la place est en fait un retour à l'image de l'Angleterre de la génération des touristes. Une destination sans enjeu particulier, légère, dépourvue de contexte philosophique. De façon notable, il s'intéresse beaucoup plus à l'aspect pittoresque de l'Angleterre que ceux qui créeront l'image de l'Angleterre philosophique, avec la possible exception de l'abbé Prévost. Et Fougeroux est un des rares visiteurs à se rendre à Stonehenge. Par certains de bons points de vue, on pourrait dire que ce contemporain de Voltaire veut faire de l'Angleterre comme destination une autre Italie. Fougeroux critique un certain mythe de l'Angleterre avant que ce mythe atteigne sa perfection par l'intervention de Voltaire. Ce type de discours allant à l'encontre d'autres discours me mène au dernier sujet que je souhaite discuter aujourd'hui, ces notions problématiques que sont l'anglomanie et l'anglophobie. Dans le seul ouvrage que je connaisse consacré directement à la notion de l'anglomanie, Josephine Krieder se plaint de l'usage abusif que l'on fait de la notion d'anglomanie, pour ensuite décrire sous cette catégorie un très vaste gamme de phénomènes de la conversation à l'anglaise, c'est-à-dire de se regarder avec beaucoup de sérieux sans dire un mot parce que l'anglais est taciturne, à l'adaptation des jardins de plaisance de type Vauxhall. Il s'agit clairement d'un manque de raffinement quant à la terminologie et à l'identification des attitudes. Anglophilie et anglomanie se mélangent et se mélangent également choix personnel suivre une mode. Et idée de business, établir un jardin de plaisance à l'anglaise en France. Deux choses très différentes. Une autre inspiration sur le même sujet m'était arrivée par une autre phrase dans la littérature secondaire. Dans un ouvrage assez ancien, mais qui est toujours cité parfois, Frances Accombe avait défini l'anglophobie comme étant le synonyme de anti-anglomanie. L'erreur logique est de taille. Il s'agit du mauvais type d'opposition. En prenant les types d'opposition d'Aristote pour guide, ici, il ne s'agit pas d'une opposition oui-non, ni de présence opposée à privation, l'exemple que donne Aristote, c'est cité avec la vue, mais d'une opposition de constat. Comme le dit Aristote, l'opposé d'être assis, ce n'est pas d'être debout. On peut être couché ou dans tout un tas d'autres positions. De la même façon, l'opposé d'être anglomane n'est pas d'être anglomane. L'opposition d'être assis, c'est de ne pas être assis. L'opposition d'anglomane, c'est d'être anti-anglomane, ce qui peut cacher tout un tas d'autres positions. On peut être anti-anglomane tout en étant anglophile, appréciation sans admiration inconditionnelle, en étant neutre, par exemple la position du tiers suisse, portant une légère antipathie vers l'Angleterre, ou en étant anglophobe. Et toutes ces permutations existent. En fait, dans la littérature. J'avais créé dans l'ouvrage un tableau synoptique de ces positions discursives dans lesquelles je plaçais face à face des positions pour et des positions contre. Dans la pratique, en fait, parfois, c'est plus simple de définir contre quoi un auteur parle que pour quelle cause il ou elle s'exprime. Anglomanie et anglophobie ne sont pas seulement des phénomènes de mode ou de préférence. Il s'agit d'une opposition qui n'est pas seulement structurelle, mais aussi structurante. Les excès de l'anglomanie ont permis à la noblesse d'Europe des années 1740 de briller par l'importation des objets de luxe ou animaux anglais. C'est l'époque des chiens anglais, des chevaux anglais. C'est le début de la création des jardins en anglais. Après 1763, la victoire anglaise, elle a permis au haut rang de la noblesse d'exprimer leur mécontentement face au régime royal. L'anglophobie, elle, était largement multipliée par l'activité de propagande du gouvernement pendant la guerre de 7 ans. Ce phénomène a été étudié par Edmond Jambowski. Adhérer à l'anglomanie ou à l'anglophobie et aux diverses positions entre les deux était une opportunité pour divers acteurs de se situer dans le champ social. Je travaillais sur mon DEA quand, dans un dialogue avec un historien, celui-ci s'est exclamé « Mais sûrement, on n'a pas voyagé en Angleterre si on la méprisait. » Or, en fait, si, ça pouvait arriver. Voltaire n'a pas inventé le voyage d'Angleterre, mais il a transcendé la destination. Il serait une simplification de qualifier l'Angleterre de destination philosophique, mais grâce en meilleure partie à l'apport voltairien, l'Angleterre est devenue un terrain d'expérimentation des idées du temps, de son temps. Après les années 1730, on s'y rend compte pour suivre les traces de Voltaire, sans doute, mais on s'y rend également pour prouver que Voltaire avait tort. Les pires textes anglomanes ne sont pas des récits de voyage, c'est plutôt des récits de voyage fictifs. Mais on trouve dans la littérature des voyages des critiques très sérieuses face à l'Angleterre. Et à côté des deux excès de l'anglomanie et de l'anglophobie, nous avons une énorme variété de motivations de voyage. Il est tentant de suggérer qu'aucune autre destination n'a rempli autant de fonctions. On y retrouve des images du progrès industriel tout autant qu'une simplicité bucolique ou le raffinement intellectuel des élites. On pouvait y retrouver l'image de l'homme meilleur, l'homme de Diogène, avec les mots de Fougère et de Montbron, mais aussi étudier les dynamiques et la dégénération de la foule. On venait en Angleterre en voyage politique, pédagogique, culturel, pittoresque, de plaisance, d'espionnage, en pèlerinage philosophique, antiphilosophique, scientifique ou littéraire. Le voyage de découverte scientifique paraît être la seule forme du voyage, plutôt répandue à l'époque, qui ne s'y trouve pas, on n'en trouverait que dans les voyages d'Écosse. Le projet que j'ai essayé de mener au bout dans mon étude de voyage d'Angleterre, de comprendre l'image de cette pratique dans la pensée de ceux qui voyagent, et même, tant que possible, dans la pensée de ceux qui décident de ne pas y voyager, n'était pas la seule façon d'approcher le voyage d'Angleterre et il reste encore beaucoup de travail à faire. Une synthèse a déjà ouvert un nouveau chantier autour de l'image de la masculinité et de l'identité nationale auprès des jeunes nobles voyageant en Angleterre. Mon travail ne pouvait pas non plus donner qu'une image très floue des relations franco-anglaises de cette époque. Cependant, j'espère que le travail a pu contribuer à une meilleure compréhension de la mentalité de l'époque et plus généralement aux nombreux usages auxquels un phénomène de voyage et son écriture pouvaient se prêter. Merci beaucoup.
Nous allons passer à la deuxième communication et ensuite nous allons regrouper toutes les questions. C'est installé, on va aussi nous donner un alors, je ne sais pas si on peut juste son, est-ce qu'on peut recommencer? Ça va faire un deuxième fichier ou est-ce qu'il faut le garder? Je ne suis pas une.